c'est une manière de se rappeler avec vraiment beaucoup de joie et beaucoup de bonheur de ces années-là. Moi, ce qui m'a frappé lorsque j'ai mené ces interviews, donc concrètement, nous avons invité une poignée de militants, une petite dizaine, à venir regarder les photos de Bernard Vimin, qui en l'occurrence, à l'époque, était exposé au musée rural des Genevais. Et voilà, moi, ce que j'ai fait simplement, c'est de leur demander de regarder en groupe ces images et de laisser les souvenirs remonter à la surface. Comment c'était à l'époque? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que vous faisiez? Et moi, ce qui m'a frappé, et c'est en même temps un petit peu ce à quoi je m'attendais et ce que j'espérais, c'est que tout de suite, j'ai entendu des éclats de rire et des commentaires du style « Ah, tu te souviens, qu'est-ce qu'on s'est fendu la gueule à l'époque ?» On a eu une jeunesse occupée, mais extrêmement joyeuse. On était tous ensemble, on se serrait les coudes. Enfin, voilà. Ce que j'ai ressenti dans ces différents commentaires, c'est pas de nostalgie, parce que je crois que ces souvenirs sont encore très vivants. Ils accompagnent ces militants. Ce sont pas des gens qui vivent dans le passé, mais ce sont des gens qui se souviennent vraiment avec joie de ce qu'ils ont fait à cette époque-là. Et puis, ce sont des gens qui, surtout, ça je l'ai remarqué, ont conservé un sens de l'humour, et c'était quelque chose qui était répandu chez toutes les personnes qu'on a pu interviewer, un sens de l'humour qui était vraiment très très présent.
L'humour, mais aussi ce caractère secret de certaines de ces opérations, parce qu'il fallait évidemment pas que ça s'ébruite.
Tout à fait. Maintenant, on est quand même pas mal de décennies plus tard, hein, vu que les photos que nous allons publier de Bernard Vimin courent sauf erreur jusqu'en 1978, donc il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts depuis 78, justement. Alors oui, effectivement, ce qui était très intéressant, c'est de voir qu'à l'époque, ben, il fallait quand même faire un petit peu attention à ce qu'on dit. Les téléphones, souvent, pouvaient être mis sous écoute. Ils étaient mis sous écoute. Certains des militants étaient suivis par la police ou par différents services. Donc effectivement, il fallait conserver un certain secret. Il était en même temps peut-être un peu plus facile à conserver qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, ben, les téléphones étaient tout de même plus rares, et puis on n'avait par définition pas la possibilité de s'épancher sur les réseaux sociaux et de faire des gaffes de temps à autre. Mais il fallait tout de même réussir à tenir sa langue. Et ce qui était intéressant aussi dans ces différentes séances d'entretien avec ces militants, c'est que maintenant, il y a quelque part plus besoin de garder le silence. Et je les sentais très heureux de pouvoir parler, de pouvoir se parler entre eux, de pouvoir se souvenir de ces événements, de ce qui s'était dit à l'époque, de ce qui s'était fait à l'époque, sans devoir le chuchoter d'une oreille à l'autre, mais voilà, en le disant dans une salle ouverte et surtout, excuse-moi l'expression, mais en se prenant la gueule, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque quand il fallait effectivement garder un certain secret.
Il y avait cette dimension donc d'humour, de secret, mais aussi le sentiment de basculer dans l'illégalité, parce que certaines de ces opérations étaient clairement illégales.
Basculer dans l'illégalité, oui, tout à fait. Maintenant, qu'on s'entende, je ne suis pas juriste, mais je ne vais pas prétendre qu'il y a plusieurs degrés d'illégalité. Il y a un côté de la loi, il y a un autre côté de la loi. Maintenant, ce qui a été fait à l'époque, par exemple, par les Béliers, n'a pas non plus été d'une gravité pénale absolument abyssale au regard du droit. Il n'y a pas eu de choses très très graves qui se sont passées. Et ça, c'est quelque chose sur quoi les militants que j'ai pu interroger ont toujours mis l'accent, c'est-à-dire nous, on a toujours mis un point d'honneur à être non-violent. Alors, il y a eu quelques excès, c'est clair. Mais ce que m'ont dit la majeure partie d'entre eux, c'est le canton de Berne, somme toute, pouvait se féliciter de nous avoir, car on a su canaliser les énergies et empêcher que le désir d'émancipation tombe dans des formes violentes ou trop violentes. Donc, il y a en même temps, oui, effectivement, une conscience peut-être d'une certaine clandestinité, peut-être plutôt que l'illégalité, mais il y a également cette volonté affirmée à l'époque et répétée aujourd'hui de canaliser les énergies pour éviter les débordements de violence.
Est-ce que parfois, avec le recul, ces militants, ils ont un regard peut-être un petit peu plus critique sur certaines opérations ?
Alors, je ne l'ai pas senti. C'est-à-dire que les opérations qui ont été réalisées, d'après ce que j'ai pu comprendre, sont encore assumées aujourd'hui. Je n'ai pas souvenir de mea culpa qui a été fait. Alors, il y a peut-être quelquefois l'un ou l'autre militant qui me disait « Ouais, là, on a peut-être pris des risques. » Par exemple, au moment de l'opération où des militants ont envahi la patinoire du stade de glace à Berne pendant le match contre la Tchécoslovaquie et qu'ils avaient des ballons qui devaient faire grimper un drapeau jurassien dans la patinoire. Et là, ces ballons étaient gonflés à l'hydrogène parce que ça montait plus vite, parce que l'hydrogène est plus léger que l'hélium. Mais c'est vrai que c'est aussi un gaz qui est davantage explosif. Et là, c'est vrai que les militants m'ont dit « Bon, là, on a eu un peu du bol quand même, mais pour finir, tout s'est bien passé. »
On imagine que derrière toutes ces personnes, derrière toutes ces opérations, il y a aussi une foultitude d'anecdotes de côté, justement, qui sont un petit peu inconnues de la préparation et de la réalisation de ces opérations?
Oui, alors c'est aussi un petit peu ce qu'on a essayé de faire. Notre but n'était pas de sortir des scoops sur la question jurassienne ou bien de faire un bouquin d'histoire qui donnerait une nouvelle analyse sociologique et intellectuelle de la lutte pour la création du canton. C'était pas ça notre but. Notre but, c'était plutôt de faire ressortir des petites anecdotes, des souvenirs, une ambiance générale. Et c'est vrai que ces petites choses, quelquefois, disent beaucoup de la grande histoire. Je me rappelle, par exemple, d'une militante qui nous disait, quand on faisait nos pancartes en carton avec des grands slogans écrits noir sur blanc, eh bien, quelquefois, moi, je devais m'énerver contre certains militants qui mettaient des grosses fautes d'orthographe et je devais les faire recommencer. C'est ce genre de petites choses qui m'intéressaient. Comment une conscience, par exemple, une conscience de l'orthographe peut interférer avec la question jurassienne. C'est ces petites choses, souvent quelquefois un peu drôles par ailleurs, qui m'intéressaient dans ce projet.
Et puis vos textes finalement sont là aussi pour illustrer ces photos de Bévis. Elles sont là pour donner quelque part une valeur ajoutée de vécu à ces clichés qui sont une part de notre histoire.
Tout à fait. Ce que je répète souvent, effectivement, c'est que ce qu'on a voulu faire avec ce livre, c'est avant tout un livre de photos. Ce qu'on a souhaité mettre en évidence, c'est le travail photographique de Bernard Vimin. L'appareil textuel qui entoure ces photographies, c'est une sorte de saupoudrage, d'assaisonnement. C'est un petit piment qu'on rajoute aux photographies, parce qu'effectivement, ce sont des petites anecdotes et des petits souvenirs qui permettent de redonner un petit peu de vibration aux photos qui ont été faites par le Bévis.